Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a 150 ans, jour pour jour, commençait la Commune de Paris. Dans une capitale française assiégée par les Prussiens, le refus de l'armistice conclu par le gouvernement issu de l'Assemblée à majorité monarchiste provoque une insurrection qui va durer jusqu'au mois de mai. La Commune, première révolution libertaire, expérience de démocratie directe, sera matée dans le sang, mais elle sème des idées comme la séparation de l'Église et de l'État ou l'instruction obligatoire. Elle a inspiré jusqu'à aujourd'hui des mouvements de gauche qui continuent à s'y référer et continuent même à diviser. 150 ans après, que reste-t-il de la Commune? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Ludivine Battigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen, membre de la rédaction de 20 et 21, revue d'histoire, et auteur du livre « La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps » aux éditions La Découverte. Et Michel Audin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, vous tenez un blog sur la Commune de Paris et vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, entre autres « La semaine sanglante », mai 1871, « Légendes et contes » aux éditions Libertalia et « José Meunier, 19 rue des Juifs » chez Gallimard, collection L'Arbalète. Ludivine Battigny, Bantigny, excusez-moi, vous avez raison. Ouais, Ludivine Bantigny, okay. La Commune, c'est une expérience sociale et politique, et on va en reparler, mais c'est peut-être d'abord un conflit entre deux France. Est-ce qu'on peut parler de guerre civile?
Alors, avant de parler de guerre civile, je pense qu'il faut parler de révolution populaire, de révolution sociale. Hein. C'est une prise de pouvoir par une partie du peuple de Paris, des ouvriers, des employés, des artisans, des petits commerçants, des journalistes, des écrivains, des artistes. Voilà, c'est cette partie du peuple de Paris qui décide de s'emparer du pouvoir, qui organise très tôt des élections pour être vraiment légitime, correspondre à un idéal démocratique, hein, une démocratie vraie. Et c'est seulement dans un deuxième temps, que la guerre civile en effet va s'enclencher, vous avez raison de le souligner, mais on ne peut pas réduire la Commune à une guerre civile. La guerre civile a été voulue par le pouvoir de Versailles, hein, c'est-à-dire le pouvoir qui s'était réfugié dans cette ville des rois, ce qui était déjà une sorte de provocation par rapport à ce que devait être la République. L'Assemblée qui détenait le pouvoir à cette époque depuis février 1871, soit un mois avant la Commune, était dominée par des monarchistes. Donc la Commune de Paris s'est aussi beaucoup inquiétée du sort de la République, craignait que cette République soit renversée par des monarchistes. Et donc il y a eu en effet des attaques violentes très tôt de cette armée dite versaillaise qui a enclenché donc la guerre civile. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier d'abord et avant tout la dimension de révolution populaire née d'une insurrection.
Mais vous avez raison, et on va d'ailleurs en parler, mais si j'évoquais cet aspect de guerre civile, c'était peut-être pour l'évacuer, pour se concentrer peut-être sur les idées qui ont été portées par la Commune. C'est pour ça que je vais insister un peu avec vous, Michel Audin. Est-ce qu'on a un bilan humain précis de ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines, et notamment la dernière, la semaine sanglante?
Donc on va parler de la guerre civile.
Oui, absolument.
Donc, il faut savoir que la guerre civile... Peut-être qu'on rappelle, le gouvernement est parti à Versailles en laissant les lieux du pouvoir vacants. Ces lieux du pouvoir ont été occupés par la garde nationale parisienne et puis ensuite après l'élection par la Commune de Paris. Et le gouvernement versaillais a décidé d'attaquer militairement Paris à partir du 2 avril, donc très tôt dans l'histoire de la Commune. Et en fait, pendant toute la durée de la Commune, il y a eu une guerre civile, une guerre assez importante, assez meurtrière qui a été menée. La ville de Paris était entourée par des fortifications, donc la guerre se déroulait autour des fortifications, jusqu'à ce que les Versaillais rentrent dans Paris. Et c'était vraiment une guerre meurtrière. Et à partir du 21 mai, les Versaillais ont réussi à entrer dans la ville. Et donc la guerre s'est répandue dans la ville et pas seulement autour des fortifications. Donc oui, en effet, il y a eu une guerre des rues, c'est-à-dire énormément de barricades. On estime qu'il y a eu 600 à 900 barricades dans tout Paris. et qui ont été prises ou tournées par l'armée versaillaise. Et chaque fois qu'un quartier, donc ils sont entrés par l'ouest de Paris, ils venaient de Versailles, c'est normal. Et puis ils ont conquis, en une semaine, ils ont conquis petit à petit toute la ville en remontant vers l'est et vers le nord-est. Et chaque fois qu'un quartier était conquis, une fois que les combats étaient terminés, alors il y avait des massacres. Donc on arrêtait les gens, on perquisitionnait, on arrêtait les gens, on fusillait les gens parce qu'ils avaient les mains noires, peut-être que c'était de la poudre parce qu'ils avaient tenu un fusil ou parce qu'ils avaient une mine d'insurgés ou pour une raison ou pour une autre. Mmh. Donc il y a eu énormément de morts dans cette guerre.
Est-ce qu'on a un chiffre précis ?
Précis, certainement pas, parce que d'abord, à l'époque, on a tout fait pour qu'on sache jamais ce chiffre. Il y a eu des tas de trafics, des archives, des documents à l'époque. Et puis, en plus, il y a des tas de morts qui ont été incinérés dans les casemates des fortifications, qui ont été envoyés dans des cimetières de banlieue. Donc, non. Rien de précis, mais bon, il y a eu déjà au moins 10 000 morts sûrs enterrés rien que dans les cimetières parisiens. Donc, bon, ça fait quand même.
C'est
quand même beaucoup.
Donc, un bilan très lourd, Ludivine Bantini, c'est peut-être ce qui explique pourquoi cet épisode, finalement relativement court, c'est 72 jours, relativement court dans le temps, rencontre encore un tel écho aujourd'hui. La mémoire collective s'en souvient, les familles ont été touchées.
Oui, bah si, comme l'a expliqué Michel Audin, il y a eu autant de morts, il faut se représenter 10 000 morts au minimum dans Paris. Ça signifie à peu près un cadavre par rue, hein, si on veut se donner une métaphore, même si évidemment c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce qu'il y avait de véritables charniers, hein, il y avait des boucheries, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette révolution populaire a affolé les possédants, dans la mesure où c'était une révolution qui aspirait à la justice sociale, qui revendiquait l'égalité, qui voulait organiser le travail différemment, essentiellement sous la forme de coopératives ouvrières, de solidarité populaire, de cantines populaires, où les femmes ont été très présentes. Elles ont pris la parole beaucoup dans les clubs. Il y avait une effervescence démocratique et sociale. Il y avait la volonté aussi de proposer une éducation émancipatrice qui rompe avec l'ordre moral, avec la hiérarchie de l'ordre en place. Donc ça explique aussi le souvenir de la Commune, parce que même si en effet le massacre n'a pas permis à la Commune de se déployer et d'aller jusqu'au bout de ses projets, il y a quand même eu évidemment des choses très importantes comme la séparation des églises et de l'État, il y a eu justement la gratuité de l'école, il y a eu quelques réquisitions d'ateliers abandonnés par leurs propriétaires pour que celles et ceux qui y travaillaient essaient de reprendre par eux-mêmes le travail. Bref, la volonté pour le peuple de reprendre son destin en main, ça faisait très peur. Et donc, le souvenir de la Commune, c'est le souvenir d'une sorte de force, d'élan et de joie révolutionnaire, de joie populaire, qui s'est transmis beaucoup, hein, de génération en génération. Ce matin encore et aujourd'hui, il y a eu une marche dans certaines rues de Paris. On a célébré comme on fait chaque année, alors notamment au mur des Fédérés, ça viendra plus tard en mai, mais ça se transmet en fait dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement social, dans une grande partie de la gauche. Dès le lendemain de la Commune, hein, on disait la Commune n'est pas morte. C'était aussi la formule qu'a forgé Eugène Potier. Et donc, de génération en génération, cette idée que la Commune n'était pas morte, qu'il fallait contribuer à ranimer sa flamme, à faire vivre son souvenir, c'était aussi une manière de poursuivre dans ses idéaux de justice, d'égalité, de dignité, de fraternité.
Oui, Michel Audin, la Commune, finalement, elle rassemblait qui ? Ce n'était pas juste quelques révolutionnaires le couteau entre les dents, il y avait beaucoup de tendances de la gauche, de la République aussi, qui étaient rassemblés au sein de cette Commune. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer.
Ah oui, bien sûr. La question pourquoi on devient communard et pourquoi on reste communard ou on n'est plus, c'est une question intéressante. Il se trouve que quand le gouvernement a quitté Paris, il y avait énormément de gens dans Paris qui étaient très en colère contre ce gouvernement, qui n'avait rien fait contre les Prussiens, qui avait capitulé, les gens pouvaient pas payer leur loyer parce que il y avait pas de travail à Paris, donc et qui voulait annuler, il y avait eu un moratoire sur les loyers, qui voulait annuler ce moratoire, pareil les dettes des commerçants, ils voulaient annuler le report de ces dettes, donc il y avait toute une population de la petite bourgeoisie, des ouvriers, la petite bourgeoisie qui était très très mécontente contre le gouvernement. Il y avait aussi, faut pas négliger, beaucoup de journalistes, parce qu'il y a pendant le Second Empire, les lois sur la presse étaient étaient assez terribles. Il y avait aucune liberté de la presse. Donc, il y avait énormément de journalistes qui étaient des journalistes républicains, qui s'étaient formés pendant le Second Empire à être républicains. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de journalistes comme Jules Vallès, des gens comme ça dans la commune. Oui, il y avait quand même beaucoup de catégories sociales qui étaient concernées. Il y avait des hommes, des femmes, des bourgeois, des ouvriers, même si c'est l'Assemblée élue en France qui a eu, parmi laquelle il y a eu le plus grand nombre d'ouvriers de toute l'histoire de France, jusqu'à, y compris à nos jours. Mais il n'y a pas que ça.
Oui, alors voilà, ça m'amène à une question, Ludivine Bantini. La commune était politiquement organisée et structurée comment ?
Alors, très rapidement, dès après le premier jour de la Révolution, le 18 mars, la prise de l'hôtel de ville par les fédérés, ce qu'on appelait les fédérés, la garde nationale, c'est-à-dire les hommes en armes du peuple de Paris, il y a cette volonté tout de suite d'organiser des élections. Le 18 mars, c'est un dimanche, on veut même organiser des élections dès le mercredi. Bon, finalement, ça prend une semaine d'organiser ces élections. Donc, voilà, ce sont des élections de représentants mandatés, hein, donc normalement voilà, ces élus sont des mandataires à qui on confie un mandat et on insiste aussi sur leur révocabilité. S'ils ne tiennent pas leur promesse, la promesse de leur mandat, ils sont potentiellement révocables, même si ça n'aura pas lieu en réalité. Donc est élu un conseil de la commune, comme le disait Michel Audin à l'instant, de ces quelques 70, un peu plus de 500 dix représentants, il y a beaucoup d'ouvriers, hein, donc c'est une assemblée très très populaire, hein, des gens qui sont élus dans les arrondissements, c'est des gens qui sont connus dans les quartiers, à qui on fait confiance, ce sont des gens qui travaillent, hein, qui sont pas des politiciens professionnels. Et puis il y a également des commissions thématiques qui sont chargées, eh bien, d'organiser les subsistances, les finances. Il y a une commission importante qui s'appelle la commission du travail et de l'échange, qui travaille beaucoup en collaboration avec l'Union des femmes, hein, plus précisément l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Mais c'est une Union des femmes qui va avoir un rôle très important pour tenter d'organiser le travail des femmes sur de tout autre base que ce qui est considéré comme de l'exploitation, hein. Donc, ce que je soulignais tout à l'heure sur l'importance des coopératives ouvrières. Donc, ces commissions, elles fonctionnent vraiment de manière permanente. Et puis, il faut compter aussi sur les clubs, hein, les clubs populaires, hein, qui font émerger une parole populaire, qui a des choses aussi à adresser, des demandes à adresser à ce conseil de la commune. Ce conseil, il reçoit aussi des délégations, hein, on parlait de l'éducation, c'est très important. Il reçoit une délégation composée en mixité de femmes et d'hommes, qui sont pour beaucoup des instituteurs et des institutrices, qui vont proposer au conseil de la commune d'organiser la mise en œuvre d'écoles laïques, gratuites, d'écoles accessibles au peuple. Hein, vous voyez, donc c'est un fonctionnement qui apparaît très démocratique, même s'il faut quand même souligner, et je m'arrêterai là sur ce point, qu'il y a aussi des frictions dans la commune. Hein, surtout que, voilà, vous l'avez souligné, c'est la guerre civile, c'est la canonnade, il y a des morts chaque jour, etc. Et donc il y a le sentiment d'une menace de mort qui plane sans cesse. Et donc ce conseil de la commune va finalement voter avec une majorité et une minorité qui s'y opposent, mais l'idée d'un comité de salut public, un peu comme sous la Révolution française, hein, qui sert de référence, qui concentrerait un peu plus le pouvoir, une sorte de pouvoir exécutif par rapport au conseil de la commune.
Alors, Michel Audin, la commune donc, elle a été réprimée dans le sang, mais certaines de ses idées, beaucoup même, hein, comme le disait tout à l'heure Ludivine Bantini, elles ont été reprises, elles sont revenues. Je pense à la séparation de l'Église et de l'État, à l'instruction laïque obligatoire. Alors, parmi toutes ces idées, en fait, il y en a certaines qui sont revenues rapidement sous la Troisième République. Comment ça s'est fait? Quel a été le chemin pour que ces idées soient reprises aussi vite, finalement?
Je ne sais pas si les idées sont vraiment reprises. Je ne suis pas sûre que l'école laïque obligatoire de Jules Ferry, ce soit exactement la même que l'école laïque obligatoire de la commune. L'école laïque obligatoire de la commune, c'était il faut que tout le monde ait accès à l'enseignement et que tout le monde puisse se cultiver et puis s'enrichir intellectuellement, y compris pas seulement intellectuellement d'ailleurs. Il y avait des écoles techniques qui étaient prévues. L'école laïque obligatoire de Jules Ferry, c'est on a besoin de former des ouvriers qui sachent compter, lire et écrire. Et bon, c'est un petit peu différent comme point de vue, même si à la fin on arrive à une école laïque et obligatoire. Donc bon, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, le fait que ces lois aient porté le nom de Jules Ferry, qui avait quand même été un des organisateurs de la famine pendant le siège de Paris, je pense que ça n'a pas plu beaucoup aux communards. Pour la séparation de l'Église et de l'État, bon, ça a pris quand même beaucoup de temps d'y arriver. Hein. C'était 1871-1905, ça fait quand même des années et des années.
Ludivine Bantini, vous le disiez tout de même, il y a un certain nombre d'idées qui font partie du patrimoine aujourd'hui, du patrimoine politique français.
Absolument. Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que ce à quoi aspirait la Commune, c'est à une véritable République. Et c'était pas nouveau d'ailleurs, hein, dans le mouvement ouvrier, depuis des décennies déjà, on disait la belle, hein, à propos d'une République qui serait vraiment une République sociale, hein, qui serait capable d'instaurer une égalité qui ne soit pas abstraite, hein, qui ne soit pas de l'ordre des principes. Hein, donc c'est une véritable justice et une égalité. Ça, c'est-à-dire l'idée que la République doit être mise en œuvre au-delà des principes. Donc ça, c'est une dimension qui reste très très présente, très puissante. D'ailleurs, Michel Audin le soulignait, voilà, entre une Louise Michel et un Jules Ferry, entre l'école de la Commune qui se veut une école émancipatrice, une école où on ne diviserait pas d'un côté le travail manuel et de l'autre le travail intellectuel, il y a quand même de grandes différences. Et Louise Michel, plus tard, dira, si Jules Ferry est élu président de la République, ça sera un soufflet aux morts. Parce que Jules Ferry avait, tout républicain qu'il était, il avait voulu aussi contribuer à asphyxier la Commune. Il était maire de Paris avant la Commune et il a emporté les caisses pour priver le Paris de la Commune de ses ressources financières. Donc il y a à la fois une histoire républicaine, mais c'est toute la différence entre une république sociale, une république populaire, une démocratie, une forme de démocratie directe, même si c'est pas l'expression qui était employée là, et puis une république considérée comme bourgeoise, représentative, mais malheureusement pas toujours représentant les intérêts de la majorité. On a vu la Commune évoquée lors de nombreux mouvements sociaux au cours de ces dernières années, que ce soit à Nuit Debout, dans les zones à défendre, que ce soit dans le soulèvement populaire des Gilets jaunes, qui parlait aussi de démocratie directe. Certains Gilets jaunes se sont organisés en assemblée des assemblées, avec des délégués mandatés. Il y a eu aussi une Commune des communes en janvier 2020, organisée par certains Gilets jaunes à Commercy, dans la Meuse. C'est un héritage qui reste vivant et plus que jamais, peut-être, puisqu'on parle beaucoup du communalisme, de l'idée que dans des assemblées populaires, dans les communes, les citoyennes et citoyens pourraient décider et non pas faire de la politique uniquement une sphère réservée à des professionnels de la chose politique.
Michel Audin, comment ça se fait que la Commune déclenche encore aujourd'hui des débats sur l'opportunité ou non de la célébrer ou de la commémorer? C'est arrivé récemment au Conseil de la ville de Paris, c'est quand même assez étonnant, 150 ans après, quand on entend qu'il y a pas mal d'idées qui se sont imposées finalement.
Bon, il y a une partie du Conseil de Paris qui pense que la Commune a amené ses lois et ses réformes de la Troisième République, et puis une autre partie qui voit même pas ça. Donc ça explique un peu cette histoire de commémoration. Moi, je suis pas pour les commémorations publiques à tout craint, mais oui, il y a des idées de la Commune qui qui passeraient encore pas. Par exemple, dans ce que Divine Bontigny a raconté à propos des clubs et à propos des discussions, des comités d'arrondissement, des choses comme ça, il y a une démocratie directe avec une parole qui est prise, en particulier par les femmes. Alors qu'elles n'ont pas le droit de vote, qu'elles ne demandent d'ailleurs pas, alors qu'elles sont pas représentées à l'Assemblée communale. Donc il y a toute une vie démocratique à la base qui n'existe pas aujourd'hui et qui montre d'ailleurs au moment de la commune que la question du vote n'est pas la question la plus importante. Donc cette démocratie-là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On élit des députés ou des conseillers de Paris et puis on les laisse faire le travail et puis on n'intervient plus. La démocratie se limite au vote, alors que c'est pas du tout ce qui se passait à l'époque. Le rôle des femmes le montre absolument, par exemple, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote.
Allez-y, continuez.
Non, mais donc ces prises de parole et cette démocratie et ces revendications qui s'expriment et ces comités d'arrondissement qui travaillent sur la façon dont répartir le travail entre les femmes dans les différentes entreprises, etc. C'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui n'a absolument pas lieu en ce moment.
Et ce sont quand même des thèmes qui traversent toute la société encore aujourd'hui, Ludivine Bontigny.
Absolument, mais en fait, je pense que si, bon, là, il y a un anniversaire, il y a les 150 ans, mais s'il y a une telle actualité, là, une effervescence autour de la commune, je pense que ça n'est pas anodin. Ça signifie qu'il y a une aspiration à retrouver, en fait, des formes de démocratie véritable, parce que je pense que beaucoup de gens se sentent dépossédés de la chose politique entendue au sens noble, hein, si j'ose dire, au sens fort, hein, c'est-à-dire la police, la cité, hein, la police au sens grec, hein, pas avec ces, mais vraiment l'idée qu'il y a du commun, que la politique c'est du bien commun et qu'on a toute légitimité à le partager, à y prendre part. C'est ce qu'ont voulu vraiment montrer les communeuses et les communeuses, c'est-à-dire se sentir légitime à discuter, à délibérer, à décider sur les choses qui nous concernent. Qu'est-ce qu'on produit? Comment on organise le travail? Qu'est-ce qu'on consomme? Comment on organise le quartier, hein, la vie du quartier? Voilà, le refus de la dépossession. Il y a deux mots qui me semblent importants sur la commune et qui sont d'actualité, hein, pour aller dans le sens de votre question. C'est l'émancipation, hein, vraiment l'idée de s'émanciper individuellement et collectivement. Et ça, c'était une joie, hein. J'ai parlé de ce mot, la joie. On entend des communes qui disent il va y avoir du bonheur, hein. Et cette joie elle s'est éprouvée, on la lit très bien dans le très beau récit de Michel Audin, votre invité, qui s'appelle Comme une rivière bleue, où on voit justement ces femmes et ces hommes heureux aussi, même s'il y a de la peur, même s'il y a beaucoup d'inquiétude, mais il y a cette joie. C'est le mot, donc, émancipation, le mot affranchissement. L'idée qu'on va s'affranchir, qu'on va demander un certain nombre de libertés, qu'on va les mettre en œuvre avec, encore une fois, je l'ai beaucoup souligné, mais ça me paraît très important, une démocratie qui soit pas seulement politique, pas seulement une forme institutionnelle, mais qui soit aussi une démocratie sociale, où, à la base, on s'organise pour échapper aux tutelles, aux pouvoirs, aux autorités qui sont jugées oppressantes.
Michel Audin, on a parlé largement pendant cette émission de l'héritage de la commune en France. Est-ce que les idées de la commune, et on est sur RFI évidemment, est-ce qu'elles se sont exportées?
Ah bah oui. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la révolution d'octobre, mais même actuellement, il y a des tas d'expériences au Mexique, au Kurdistan, dont Ludivine sûrement parlera beaucoup mieux que moi, qui montrent que ces idées se sont en effet exportées. Oui, bien sûr.
Ludivine Bontigny, puisque vous allez en parler mieux, comme dit Michel Audin. Est-ce qu'il y a des exemples de révolte ou de révolution, de mouvements communistes, mais peut-être pas seulement, qui s'en sont réclamés? et qui s'en réclament toujours.
Ah, bien sûr, bien sûr. Michel citait la révolution russe. Dans l'Union soviétique, on connaissait très bien la commune. C'était aussi le cas dans la Chine populaire. D'ailleurs, voilà, il y avait une commune de Shanghai qui se réclamait de la commune de Paris. Et quand on interrogeait, y compris des paysannes et des paysans de la Chine des années 1960 ou 70, la commune de Paris, voilà, quand on citait Paris, il y avait vraiment cette référence à la commune, mais beaucoup plus près de nous. Et Michel Audin vient d'y faire allusion. Il y a une mise en œuvre concrète à assez grande échelle sur le territoire du Rojava, c'est-à-dire du Kurdistan syrien, une fédération de communes vraiment organisée sur la base de ce communalisme très féministe, de volonté de sortir de la logique productiviste, de compétition, de concurrence. On peut citer aussi le cas du Chiapas, cette région du Mexique où s'organisent les zapatistes aussi sur la base d'une démocratie directe, avec des assemblées communales, des assemblées de villages, de quartiers, etc., où on conçoit la chose politique et l'existence de manière générale, le rapport au vivant, à la nature, à ce que les zapatistes appellent la terre-mère, de manière extrêmement différente. Et ça fait écho d'ailleurs à, par exemple, le géographe anarchiste Élisée Reclus, qui était un communeux et qui avait déjà vraiment une pensée qu'on n'appelait pas écologiste à l'époque, mais qui avait une vision du rapport au vivant, de la nécessité de le préserver, du risque de sa destruction par la logique productiviste jugée délétère, qui était vraiment elle aussi révolutionnaire pour son époque et qui laisse un héritage concret dans ses expériences très contemporaines.
Michel Audin, comment ces idées se sont disséminées, et je vais poser directement la question, est-ce que la déportation de certains communeux en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie a inspiré des mouvements révolutionnaires et de décolonisation sur place?
Ouh là là. D'abord, il y en a
un vrai sujet d'étude, bien sûr.
Il y en a pratiquement pas eu qui ont été déportés en Algérie. On a décidé de les envoyer en Nouvelle-Calédonie. Je connais pas d'exemple en Algérie. Ouais. Donc, et en Nouvelle-Calédonie, ils ont été soit déportés, soit bagnards, et ils se sont pas vraiment mêlés à la population kanak. Et c'est un euphémisme parce qu'ils ont même, ils n'étaient pas vraiment anticolonialistes. Ouais. Les déportés qui étaient en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois pas que la question de l'Algérie est une question intéressante parce qu'il y a eu un mouvement en Kabylie au même moment que la Commune de Paris. Il y avait une partie de l'armée française qui massacrait à Paris, puis il y avait une autre partie qui massacrait en Kabylie à ce moment-là. Et les Kabyles qui ont été arrêtés, emprisonnés, ils ont été envoyés aussi en Nouvelle-Calédonie. Et donc ils se sont retrouvés avec les communards en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, eux non plus n'ont pas été extrêmement solidaires des Kanaks à cette époque-là, si je me souviens bien. Bon, ça s'est pas exporté de cette façon-là. Ça s'est exporté sûrement parce que il y avait des organisations internationales, à commencer par l'Association internationale des travailleurs, l'Internationale. Ce qu'il en restait, qui a aidé à diffuser, y compris avec des communards qui étaient proscrits et qui s'étaient réfugiés à Londres ou en Suisse ou en Belgique ou aux États-Unis, qui a fait évidemment disséminer ces idées-là, disons en Europe, mais sur le front du colonialisme, là, je serais prudente quand même.
Ludivine Bantigny, il nous reste quelques secondes sur cette façon d'internationaliser le mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
Je pense que la Commune a été profondément internationaliste, au sens, même si il s'agissait aussi de défendre Paris, parce que Paris était assiégé, il faut le rappeler. Donc, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes internationalistes. Il y avait ces sections françaises de l'Internationale, il y avait des Polonais et des Polonaises, le Hongrois Léo Frankel, qui a joué un rôle très important. Le fait qu'on a voulu renverser la colonne Vendôme, qui a apparaissait comme le symbole du tyran napoléonien et des guerres napoléoniennes qui, quand il y a des victoires, même si c'est du côté français, ça suppose aussi des peuples écrasés sous la défaite. Et donc cette mémoire de cet internationalisme, il se retrouve aussi aujourd'hui parce que la Commune de Paris reste un événement important à l'échelle internationale.
Merci Ludivine Bantini, merci également à Michel Audin, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Pons, Charles Barré et aujourd'hui Laurent Philippot à la réalisation. Prochain débat demain, même heure, même endroit avec Philippe Le Caplain. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.
Ici l'Europe, Dominique Bayard.